Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De profundis clamavi a te, Domine. Hier, nous avons eu le bonheur, la chance d'avoir trois messes pour le repos de l'âme des fidèles trépassés. Cette messe est également célébrée pour le repos de l'âme des défunts d'une famille. Et tout au long de ce mois de novembre, les suffrages vont monter vers Dieu pour obtenir la délivrance, le soulagement des âmes du purgatoire. C'est vraiment une œuvre sainte que l'Église nous propose pendant ce mois de novembre et nous aurons à cœur de vraiment suivre les consignes de notre Mère, la Sainte Église, d'autant que le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, toute matérialiste, tout a donné à la terre, à l'hédonisme, ne nous encourage pas, ne nous invite pas à méditer sur l'au-delà. Alors, marchons, nageons à contre-courant et plongeons notre regard dans ces mystères. Nous pouvons scruter un peu le mystère, lever un peu un coin du voile, grâce à la Sainte Écriture, aux écrits des Pères de l'Église, aux écrits des mystiques. Certaines révélations sur le purgatoire sont très parlantes. Et il s'agit surtout d'affermir notre foi, voir ce qu'il faut croire dans ce domaine et ce qu'il faut faire. Le quid credendum, quid faciendum. Il est certain, dans un premier temps, que nous devons affermir notre foi dans l'existence d'un lieu de purgation après cette vie. Un lieu destiné à purger les fautes commises sur cette terre qui peut-être ont été pardonnées mais n'ont pas été entièrement expiées parce que chaque péché est en soi une faute mais en même temps nous fait contracter envers Dieu une dette. Si nous avions le malheur de voler, eh bien il ne suffirait pas de dire « je vous demande pardon pour vous avoir volé », il faudrait restituer l'objet. Eh bien, de même pour chaque offense envers Dieu. Il y a les péchés mortels qui ont été pardonnés, mais voilà, qui ont leur dette. Et puis, il y a la dette des péchés véniels, mais aussi des péchés véniels pour lesquels nous avons un certain attachement. Et lorsque nous mourrons dans cet état-là, il faudra nécessairement, de toute nécessité, expier pour ses fautes. Cette croyance dans le purgatoire remonte certainement à très très loin, puisqu'on lit dans le livre des Maccabées que Judas Maccabée, après une bataille, il y avait pas mal de ses soldats qui étaient tombés sur le champ de bataille, il envoyait une offrande à Jérusalem pour faire offrir des sacrifices pour le repos de ses guerriers. Mais s'il avait pensé que tous étaient allés directement dans le lieu de la béatitude, ou bien que c'était l'inverse, que voilà, ils étaient damnés, il n'aurait pas fait demander des prières pour le soulagement de ces soldats morts. La croyance au purgatoire existait donc déjà dans l'Ancien Testament et notre Seigneur, lorsqu'il vient parmi nous, évoque cette existence d'un lieu d'expiation. Lorsqu'il dit qu'il y a un péché contre le Saint-Esprit qui n'aura de rémission ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ce qui signifie qu'il y a certains péchés qui demande à être expié dans l'autre monde. Et c'est certainement pas dans l'enfer. Si dans l'enfer, c'est trop tard. Et l'Église, forte de ces enseignements du Maître, a défini le dogme qui avait jusque-là été cru. Elle n'a pas, au XIIIe siècle, comme souvent on l'entend dire, inventé le dogme du purgatoire pour des raisons pas très dignes. Et non, la définition par le Concile de Lyon en 1274 du dogme du purgatoire est comme l'aboutissement d'une réflexion théologique et en même temps conforter cette réflexion théologique par tout ce que les pères de l'Église ont dit, un Tertullien, un saint Augustin, tous croyaient d'une manière unanime au purgatoire, que ce soit en Orient ou en Occident, on a toujours cru dans l'existence du purgatoire. Après, pour définir et pour préciser ce qu'était la nature des peines dans le purgatoire, il y a plus de liberté pour penser ceci ou cela, mais il est certain qu'il y a des peines très lourdes dans le purgatoire, très douloureuses. On pense communément qu'il y a d'abord le retard de la vision béatifique, et ça se comprend très bien, que ce soit une grande douleur, parce que quand on meurt, on était censé aller à la rencontre de l'ami. Et bien voilà, la rencontre est différée, et quelquefois très longtemps. Et pendant ce temps, on doit souffrir beaucoup. Et on souffre en particulier de ce retard. On souffre d'autant plus de la privation d'un bien que ce bien est excellent et qu'on était destiné à le recevoir tout de suite. Et on comprend l'âme du purgateur, comprend peut-être un peu tard, mais elle comprend que Dieu est tout et que le reste n'est rien. Et donc, elle s'est détournée de Dieu par le péché, elle ne s'est pas pressée de répondre à l'appel de Dieu qui la voulait toujours plus sainte, et elle a été négligente. Et bien maintenant, elle comprend que ces négligences, elle aurait pu les éviter, et qu'elles vont lui coûter des douleurs, et en même temps lui ôter une gloire là-haut, qu'elle aurait certainement pu avoir, qu'elle aurait dû avoir, si elle s'était donné davantage de peine. Mais en même temps, on ne peut pas dire que cette souffrance soit extrême sans donner en même temps une certaine joie à l'âme, puisqu'elle est certaine d'être sauvée. Cette certitude d'être sauvée fait le bonheur des âmes du purgatoire. Il y a un mélange, il y a quelque chose de mystérieux pour nous, cette union entre la douleur la plus extrême et une joie très profonde. Mais en plus de ce retard de la vision béatifique, l'Église pense qu'il y a une peine du sens et que c'est même un feu matériel, corporel, qui s'en prend à l'âme, curieusement, parce qu'évidemment, on n'imagine pas comment quelque chose de matériel puisse atteindre un esprit, mais la justice de Dieu se sert de ce feu pour lier l'âme et l'empêcher de faire et d'agir comme elle le voudrait. Et ça, c'est un tourment pour l'âme. Et ce qui fait le tourment aussi de ces âmes, c'est qu'elles n'ont pas la possibilité de se soulager par elles-mêmes, de se délivrer par elles-mêmes, puisque ici-bas, c'est quelque chose de possible, puisque nous pouvons, par nos mérites, par nos œuvres méritoires, obtenir d'expier nos péchés et d'avancer sur le chemin de la béatitude, sur le chemin du ciel. Nous faisons telle prière, nous faisons telle œuvre de pénitence, le jeûne du carême, un pèlerinage. Eh bien, cela, on voit bien que ça nous allège, ça nous soulage. Ça nous rend plus proche de Dieu. Mais elles ne peuvent plus. Le mérite, c'est fini. Le mérite, c'est pour cette terre. Après, leur expiation a un caractère de satisfaction, non de satisfaction. Elles ne peuvent que souffrir. Et donc, elles sont dans un état d'attente vis-à-vis de l'Église militante de la terre. Évidemment, le bon Dieu par lui-même peut les soulager, mais sa justice exige qu'elles expient, et sa justice et sa charité nous pressent, nous qui sommes libres, nous qui sommes les frères de ces âmes du purgatoire, de ces âmes souffrantes, de faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour ces âmes ? Oh, tout simplement les œuvres habituelles de miséricorde, la prière, toutes les œuvres méritoires, la prière, les mortifications corporelles et les aumônes. La prière, c'est bien sûr le chapelet, c'est telle ou telle dizaine dites à leur intention, temps à autre. C'est toutes ces offrandes, toutes ces prières que nous faisons par l'office des morts. Mais c'est surtout la messe, c'est surtout l'application du sang rédempteur de notre Seigneur à ces âmes qui va leur apporter le soulagement et la délivrance. Et donc l'assistance à la Sainte Messe le plus fréquemment possible, la communion à cette intention, et constitue le suffrage le plus puissant, le plus efficace. Mais aussi, toutes les peines de nos vies, toutes les souffrances consenties, les mortifications peuvent être appliquées aux âmes du purgatoire. Et Dieu sait si dans une journée, nous avons bien des occasions à offrir. Et puis enfin, les aumônes, la charité, l'exercice de la charité par toutes sortes d'œuvres de miséricorde, peuvent être d'un grand secours aux âmes du purgatoire, pensons-y. Donc faisons dire des messes, notamment pour les âmes du purgatoire. Donc réconfortons-nous par ces vérités, le rappel de ces vérités essentielles, pour nous stimuler à être plus généreux en ce mois de novembre, en ces jours-ci tout particulièrement, pendant l'octave, l'octave des morts, pour redoubler de charité. C'est une charité que nous leur devons, c'est une charité à faire au bon Dieu lui-même. Dieu aime beaucoup ces âmes. Et ne disons pas « Ah, Dieu est trop dur, Dieu est sévère », c'est sa sainteté qui exige une telle expiation. Ce serait si l'âme pouvait davantage souffrir et plus longtemps encore souffrir pour se rendre encore plus belle, pour entrer dans le ciel, elle le ferait d'elle-même. Et d'ailleurs, quand l'âme, juste après l'instant de sa mort, apprend son jugement particulier, qu'elle est destinée à expier encore pendant un certain temps dans le purgatoire, mais elle s'y précipite elle-même. Parce qu'elle n'oserait pas se présenter devant Dieu souillée comme elle est. Elle a peut-être un peu tard, mais elle a conscience de ce qu'est la gravité du péché et de ce qu'est le bon Dieu, de ce que c'est la grandeur de Dieu, la beauté du ciel. Alors, c'est une charité à faire à Dieu qui aime beaucoup ses âmes et qui a en quelque sorte hâte de les voir sortir de ce lieu d'expiation pour entrer dans la béatitude, dans sa béatitude, dans leur béatitude. Et c'est une charité à faire aussi envers nous-mêmes, parce que de nous stimuler à faire quelque chose pour ces âmes, à prier, à davantage faire des sacrifices et à accepter nos croix dans cette perspective, parce que voilà, on voit bien que ce mois de novembre nous fait faire toujours des grands progrès dans la vie spirituelle. Demandons la grâce de bien vivre ce mois de novembre, demandons-le par la médiation, l'intercession de la très sainte Vierge Marie, qui a elle aussi un grand désir de voir ses âmes soulagées, délivrées, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.